ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Après une longue carrière chez Jeunesse Canada Monde, Matthew Pierce est devenu directeur de l'organisme Mission Albury en 2008. Fondée en 1889, la Mission Albury offre aux adultes de Montréal des repas, des gîtes de nuit, des résidences transitionnelles, des vêtements et divers services dans un climat d'entraide et de respect. Nous recevons donc le directeur général de la Mission Albury, M. Matthew Pierce. Matthew Pierce, bienvenue à notre émission. Un grand plaisir de vous recevoir pendant 60 minutes.
Merci de votre invitation.
Merci. Et puis de vous connaître aussi parce qu'on connaît l'organisme. Mm-hmm. On connaît très peu l'homme. Et avant d'être un homme, c'était un petit garçon.
Oui. Et alors c'est pas très original. C'est le cas pour plein des hommes.
Plein des hommes. Justement, vous êtes né où et vous avez grandi où?
Ah bon, alors je suis né à Calgary, Alberta, à l'ouest du Canada, des parents montréalais qui ont déménagé là-bas. Qu'est-ce que je dis, c'est que mon père est parti pour débuter sa carrière dans le contexte pétrolière. Ça, c'est dans les années 50. Mm-hmm, mm-hmm. Et quand j'avais 7 ans, nous avons redéménagé à Montréal. Et j'ai dit, avec la sagesse dans le monde des affaires que ma famille est reconnue, il a décidé qu'il n'y avait pas d'avenir dans l'industrie pétrolière et il est revenu à Montréal. Alors, c'est peut-être une erreur de jugement de sa part, mais tout de même, ça m'a amené ici.
Ben, peut-être des parents comme vous, très humanistes, juste tourner vers l'humain que l'avoir du pétrole, peut-être.
Oui, voilà.
On peut penser ça, non?
En fait, c'est le cas. C'est le cas. Oui.
C'est vrai, c'est mm-hmm. le cas. Alors, vous arrivez ici, vous avez 7 ans, c'est
J'avais ça? 7 ans, oui. Mm-hmm. Deux frères, alors j'ai embarqué dans la vie d'un enfant de 7 ans, à l'école, pas très original, mais j'avais des intérêts variés dans le domaine de la musique, mmh. dans le domaine des loisirs, surtout de l'équitation,
Et le français, parce que vous le parlez bien?
J'ai pas parlé français à l'époque. Il y a très peu de gens à Calgary qui parlent français. Alors, sortant de Calgary, j'avais un apprentissage à suivre. Et pendant que je sais que je fais plein des erreurs dans mon français, c'est loin d'être parfait. Tout de même, c'était suite à des travails d'été où j'ai rencontré des jeunes Québécois de mon âge, Québécoises et Québécois de mon âge, et ils m'ont enseigné juste par la conversation.
Ben donc et bon, par la suite, est-ce que l'école, vous êtes fâché avec l'école? Vous aimez l'école?
Ah non, j'aimais bien, ouais, l'école. J'étais pas, il n'y a pas un plaque au mur de mon école qui témoigne d'un étudiant fabuleux, mais tout de même, j'ai bien aimé. Il y avait, comme pour tout le monde, il y avait des sujets qui m'a attiré plus que d'autres, tels que l'histoire, éventuellement la science politique, pas à l'école secondaire, c'est clair.
C'est un petit peu plus tard dans votre carrière. Donc, effectivement, vous allez à l'université en sciences politiques au départ.
Oui, mais j'étais au Cégep Vanier pendant quelques années. Excusez-moi. Et j'ai suivi des études en histoire et en sciences politiques à cette époque-là. J'ai aussi participé beaucoup dans la vie politique des étudiants, c'est-à-dire le syndicat des étudiants et la représentation des étudiants envers l'administration. Alors, j'avais une vie politique à cette époque-là.
Est-ce que c'était dans le but d'une justice sociale, le fait de s'impliquer au niveau politique, de changer les choses, de faire en sorte que ça soit amélioré? Ou...
C'est sûr que c'est évolué dans cette direction, ça c'est clair. Mais les origines, c'était plutôt que j'avais des amis qui s'inscrivaient dans le même sens et j'étais attiré par cela et... Et il y avait, pendant les rencontres, ils servaient des sandwichs gratuits. Un étudiant, je trouvais ça très attirant, mais c'est clair qu'à la suite, c'est cette question de justice sociale qui, je croyais que j'avais peut-être une contribution.
Qui est venue, alors, pendant les études, donc après, vous allez en sciences politiques, est-ce qu'il y a une espèce d'éveil quand vous écoutez les cours? Est-ce que d'envie de dire, bon, mais un jour, je ferai ça? Est-ce que vous aviez une vision sur votre avenir?
Mon père voulait que j'avais une réponse claire à cette question. Enfin, il pose la question, vous voulez quoi en suivant ce genre d'études? Je dois dire, je ne savais pas. C'est juste que c'était je me suis retrouvé dans des discussions en classe qui allaient au fond des sujets sociaux, des sujets de politique, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on a pu embarquer dans ces contextes de discussion. Ça, c'était un intérêt de moi aussi. Les discussions portaient pas uniquement sur le phénomène local, mais aussi les phénomènes nationaux, internationaux. Alors, l'étude de sciences politiques comparatives m'a amené à mieux connaître les choix des autres lieux dans le monde, en ce qui concerne la structure de leur société.
Donc extrêmement riche, quoi,
intellectuellement. Oui, je trouvais ça très, très riche, mais je dois dire, je n'avais pas un sens de direction où ça va m'amener dans une vie politique ou une vie de communautaire, quoi qu'il en soit.
Est-ce que vous cherchiez?
Oui, je crois que oui. On parle de l'âge de quoi, 17 à 20 ans. S'il n'y a pas quelqu'un qui cherche à mieux se connaître à ce moment-là, c'est très rare. Et c'est à ces moments-là qu'on commence à peut-être établir un sens de direction. Pas direction nécessairement dans le sens d'une carrière, mais sens de direction dans les éléments qu'on croit qui sont importants, le développer les valeurs qu'on croit importantes de maintenir chez soi.
Le mot valeur est important. Ensuite, vous partez. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais les voyages tout le temps, finalement, pour apprendre, pour vivre, pour voir d'autres choses, pour voir ce qui se passe, pour comparer. Et vous partez avec votre sac à dos.
Oui. En fait, c'est vrai, oui. Ça, c'est suite à mes études universitaires. Comme j'ai dit, j'ai étudié au Cégep Vanier, ici à Montréal, Saint-Laurent plutôt, et ensuite une année à Concordia, Université de Concordia. Ensuite, j'ai parti pour Halifax pour terminer mes études, toujours en sciences politiques et histoire, à l'Université de Dalhousie. Pourquoi que j'ai déménagé à Halifax? C'est parce que j'avais deux amis qui déménageaient là-bas. Ils ont dit, pourquoi pas se joindre à nous? J'ai dit, bonne idée. Alors, pas plus compliqué que ça. À la suite de mes études, oui, avoir passé des études universitaires dans le domaine de l'analyse et la découverte du monde autour de moi, et les endroits que je trouvais exotiques et très attirants, j'ai décidé que ce sera le bon moment dans ma vie de avec un sac à dos, de partir, découvrir mon monde et le monde. Alors, je me suis décidé, je peux soit faire ça ou embarquer dans une carrière et attendre ma retraite pour le faire. Et j'ai dit non, c'est le moment de faire pendant que je ne suis pas ancré dans une piste
carrière,
de carrière.
C'est ça. Et là, quel pays vous avez visité? Mais
j'ai arrivé à Paris, okay, par avion. Je voyageais avec un ami. Nous avions arrivé à Paris et c'était un fantasy réalisé, ouais, tout de suite. Si vous étiez à Paris, on comprend tout de suite, ça nous prend en main et
ça nous s'attache. Souffle.
Oui, ça nous souffle. Et ouais, on s'attache tout de suite à la découverte de la
Alors, vous arrivez à Paris, quelque chose de différent.
Voilà, alors, je suis arrivé à Paris. C'était à l'époque, il n'y avait pas d'Internet dans les années 70, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas pu faire du surfing sur l'Internet pour savoir où on va vivre, où on va choisir un hôtel. Alors, c'était juste de se promener, de découvrir.
De découvrir. Alors, on va faire une pause musicale. Steve Earle, Invisible, choisi par notre chercheuriste pour vous.
Darkest fear.
Nous sommes en direct avec Mathieu Pierce, président et chef de la direction de la mission Albury. On va dans le temps comme ça, on est rendu où vous êtes parti avec votre sac à dos. Et puis, il y a eu donc, de nombreux voyages. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu cette espèce d'étincelle pour aider son prochain? Parce que ça fait partie de votre vie, c'est carrément la majorité de votre vie. Vous travaillez pendant 22 ans chez Jeunesse Canada Monde. Alors, après le sac à dos et les voyages, qu'est-ce qui arrive?
Mais j'ai découvert à travers ces voyages de plusieurs mois, dans plein des endroits dans le monde, quasi tous les continents et toujours sac à dos, et j'ai découvert chez moi un intérêt profond de continuer à avoir un échange global, de rencontres avec d'autres cultures, d'apprendre d'autres cultures, d'apprendre des choix de vie des personnes dans tout contexte. Mais je suis arrivé à un moment où j'étais insatisfait d'être un visiteur et un touriste, si je peux dire, observait, qui faisait des observations sur une culture, mais j'ai voulu participer plus profondément dans l'activité dont je rencontrais. Alors, c'est comme ça que j'ai fait des enquêtes, une sorte d'évaluation des options. Et j'ai trouvé l'organisme Jeunesse Canada Monde.
Alors, Jeunesse Canada Monde, quand il arrive, bon, cet organisme dans votre vie, vous allez choisir cet organisme-là. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous allez cogner? Parce que souvent, ce n'est pas facile. Hein?
Non, ce n'est pas facile. Mais je les ai contactés pour savoir comment peut-on participer. Pas comme un participant, un bénévole, mais plutôt, j'ai dit, bien, je crois, avec mon expérience, grande expérience de voyage, je pourrais être un chef d'équipe ou un superviseur qui aide les jeunes de découvrir qu'est-ce que moi j'ai découvert dans mes voyages et pour leur aider de développer les valeurs qui aident à une interaction harmonieuse avec d'autres cultures. On se voit si on demande aux Québécois que c'est quoi une valeur fondamentale chez nous, on va dire, dans la liste, on va nommer la tolérance. On va dire, on est un peuple tolérant. Mm. En général, on croit que c'est important et on est tolérant. Mm. Et de mon expérience, c'est vrai, tant et aussi longtemps qu'on n'a rien à tolérer. Mais aussitôt qu'on a quelque chose à tolérer, c'est un défi. Il faut trouver les moyens d'accepter qu'il y a quelque chose qui se fasse différemment, qu'on ne comprend pas, un contexte qu'on ne comprend pas. Alors, je trouvais ça très intéressant dans le travail de Jeunesse Canada Monde, c'est de présenter aux jeunes de 17 à 21 ans ce défi de comment confronter nos propres valeurs quand ils sont en conflit ou en parfaite harmonie avec l'autre.
Qu'est-ce que vous vouliez changer à l'extérieur? Parce que vous avez dit quelque chose d'important, ben j'en avais un peu marre d'être un touriste et puis de rien faire. Mais qu'est-ce que vous aviez envie de changer?
J'avais envie de changer le niveau de ma participation dans les sociétés où je me suis trouvé. J'ai voulu approfondir ma capacité d'adaptation à un milieu d'approfondir le niveau du dialogue d'un niveau touristique où est le garde d'autobus plus vers
oui,
pourquoi que vous avez ces valeurs-là, le choix de religion ou choix de structure politique. J'avais un intérêt d'approfondir.
Ouais. Juste avoir des discussions liées où se trouve le musée plutôt, mais est-ce que vous êtes satisfait du dirigeant de votre pays plutôt?
Oui, voilà, c'est ça, ce genre de choses, oui, c'est ça.
Et après, bon, alors ces 22 ans, c'est quand même pas rien.
C'est pas rien, non.
C'est beaucoup. Comment s'est fait la jonction, la rencontre de la mission Aubrey et avant d'arriver à la rencontre, vous partez de gens qui vivent dans la rue, des gens qui ont malheureusement pas de droit dû à des politiques, on va le voir plus tard, puis on en parlera beaucoup. Mais comment votre intérêt s'est fait, parce que c'est vrai que ça aussi, il faut changer les choses, il ne faut pas juste regarder et donner une petite pièce pour se sentir soulagé, c'est plus que ça. Comment vous avez eu l'éveil?
À Jeunesse Canada Monde, qu'est-ce qui m'a motivé le plus profondément? C'était, je croyais que j'étais à l'intérieur d'une mission, un organisme avec une vocation de changer le monde. Si on peut changer la façon qu'un jeune puisse interagir avec des gens qu'on ne connaît pas et d'une culture qu'on ne comprend pas, et qu'on peut vraiment vivre la tolérance et d'accepter le choix des autres, on peut créer un monde avec plus de paix, plus d'harmonie. Alors, je croyais que j'ai participé à la mise en œuvre de toute une vision de comment on peut structurer notre monde, finalement, par l'apprentissage des jeunes. Alors, c'était de changer le monde. C'est ce qui m'a attiré.
Changer le monde, mais former ces jeunes à ce qui, à leur tour, change le monde.
C'est ça. Okay. C'est pas moi qui va seul, tout seul changer le monde. Ça prend d'autres mondes.
Alors,
suite à cela, j'étais le PDG, le président directeur général de Jeunesse Canada Monde dans les derniers 5 ans de ma carrière chez eux. Tout simplement, après 22 ans, j'ai dit, mais peut-être que je dois passer...
Le flambeau
à quelqu'un d'autre. Et je vais chercher quelque chose où je ne serai plus obligé autant de passer les heures dans les aéroports et de voyager autant que je faisais. J'avais une jeune famille, un fils, et je n'ai pas voulu être à l'extérieur du pays autant. Mais j'ai toujours voulu participer à quelque chose où je sentirais que je puisse vraiment contribuer à un changement pour le bénéfice de la société. Je me suis dit, on va tous passer des heures et des heures. La plus grande partie de notre vie est passée en carrière, en travail, en boulot.
Tout à fait.
Et j'ai dit, mais si on va passer autant de temps, pourquoi ne pas le faire dans une œuvre qui puisse améliorer les conditions, ou que je puisse, lorsque j'arrive à ma retraite, je peux regarder en arrière pour dire, j'ai fait quelque chose d'important.
Ouais.
Alors, c'est là où j'ai entendu que la mission Aubrey était à la recherche d'un directeur général. J'ai dit, mais c'est local, c'est dans une ville qui m'appartient.
Que vous connaissez bien, que vous avez adopté depuis tout
voilà.
petit, hein, c'est ça?
Et alors, je me suis dit, ça pourrait être intéressant.
Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait?
Ça s'est fait. J'étais pas, je dois dire, parce que quand on a une image de la mission Aubrey, je sais pas pour vous, les auditeurs, ils ont une image des immenses dortoirs, des lits superposés et un refuge où ils auront un lit le soir. Et ensuite, je sais qu'on va parler tantôt des services qui sont
du fonctionnement et tout ça, oui.
Et j'avais cette même image et je me suis dit, je sais pas si c'est fait pour moi, un organisme qui va uniquement héberger les gens pour la nuit. Je sais que c'est crucial, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque j'ai mieux fait mes recherches et j'ai mieux connu l'organisme, je me suis dit, mais là, c'est quelque chose qui m'attire, parce qu'ils ont embarqué tout juste dans un changement, un virage vers la réinsertion. J'ai dit, mais si c'est pour résoudre le problème de l'itinérance, je crois que ça m'intéresse plus que l'hébergement.
Et je vais vous citer parce que ça résume tout à fait ce que vous venez de me dire dans une très belle phrase qu'il faudrait se mettre sur le frigidaire. Ce n'est pas suffisant de faire des bonnes choses, il faut faire des bonnes choses qui vont faire une différence.
Voilà.
Donc c'est ce que vous vouliez.
C'est exactement ça. Ce soir, il y a bien des Montréalais qui n'ont pas un toit et sont à la recherche d'un lit pour le soir. C'est essentiel que la mission Aubrey puisse l'offrir. Mais si c'est tout ce qu'on offre, on est plus partie du problème, parce qu'on facilite l'itinérance. Les gens sauront qu'ils auront un lit, ils auront un repas. Alors, il faut ajouter dans notre offre de services.
Ah, et avant de vous impliquer, d'être le directeur, vous avez parlé de peur, mais vous, quelle était votre relation avec les itinérants?
Je n'avais pas une énorme expérience avec la population itinérante. Pendant que j'étais étudiant en Halifax, les étudiants, les appartements et le logement d'un étudiant, c'est souvent dans les quartiers défavorisés, ce qui était le cas pour moi. Alors, il y avait beaucoup de personnes itinérantes aux alentours de où j'habitais à Halifax. Et j'ai pu rentrer en discussion. J'étais photographe aussi à l'époque, alors j'ai pris quelques photographes de ces gens-là. Mmh. J'avais un travail à temps partiel pour payer mes frais variés à une taverne où fréquenter des anciens... je ne sais pas comment le dire en français, sailors.
Des vendeurs. Des navigateurs.
D'accord. C'est ces gens-là qui travaillaient plus, puis ils ont été à la rue et ils rentraient pour avoir une bière de boire. Et alors, j'ai pu les rencontrer à cette époque-là. C'est le seul lien que j'avais direct avec l'itinérance.
Alors là, vous savez que vous choisissez votre musique et vous, vous avez choisi Plume la Traverse, l'hiver. Alors, dites-nous pourquoi.
Ah bien, c'est parce que je ne sais pas si vous le trouvez l'hiver long cet hiver. Je le trouve très long et cette chanson me cherche surtout. J'ai sorti ce matin avec le chien pour promener le chien, puis mes mains gelées. C'est le 31 mars, avril demain. Comment ça que l'hiver dure aussi longtemps?
Alors, on l'écoute.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds. Puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de garage. La slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir. J'ferme toutes mes fenêtres puis j'veux même plus sortir. Wow, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça geler des pieds. Pis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un ours dans le fond de sa cage. J'cultive la mousse sur mon visage. Du if à frette, du j'ai envie de partir. Du j'me sens prête à pas me faire engourdir. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai les pieds, c'est pour ça que je l'ai les doigts, puis c'est bon pour ça que je l'ai la tête dans le temps des...
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mathieu Pierce, président et chef de la direction de la mission Albury, est avec nous. Monsieur Pierce, vous savez que bon, l'itinérance, c'est là. Et vous avez une philosophie qui est tout à fait, vous en avez parlé. Le fait de dire plus on met de lit, plus en fin de compte on encourage et plus vous êtes en vie. Et c'est mauvais signe finalement.
Oui, c'est essentiel qu'on offre des services d'urgence tels qu'un lit pour le soir. Mais il faut absolument ajouter dans les services des programmes d'accompagnement, un accès au logement abordable pour la personne, durable, stable et avec accompagnement.
Oui.
C'est là où reste la solution, parce que nous croyons, je crois, qu'on ne doit pas imaginer de comment mieux gérer le phénomène de l'itinérance. Je crois que nous devons imaginer de vaincre l'itinérance telle qu'on le connaît.
Oui, parce que dans certains pays, ils vont encore plus loin que nous.
Oui.
Au niveau des logements, ils en donnent.
Oui.
Et comme par hasard, il y a presque plus d'itinérants dans la rue, là.
Oui, mais on peut...
On n'a pas rendu là, nous, au Québec.
Non, on peut arriver à la conclusion, mais comment peut-on payer un logement pour toutes ces personnes-là? Mais les bonnes nouvelles, c'est que d'offrir un logement à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de nos murs ce soir, de leur offrir un logement et de subventionner leur loyer, nous coûtera les payeurs d'impôts, les donateurs, moins cher que de les garder en refuge.
Mais ça, ça passe pas. On dirait que le gouvernement n'a pas cette écoute-là, parce que là, c'est quelque chose. Là. Ils sont présents, il faut vraiment pas mettre la tête dans le sable. Et, vous l'avez dit, les logements sont vraiment très, très élevés, c'est très cher.
Ils sont présents. L'itinérance, c'est un phénomène qui touche tous, qui circulent dans la rue. On ne peut pas passer 5 coins de rue avant qu'on rencontre quelqu'un qui est en itinérance. Je trouve ça déplorable dans une société comme la nôtre. Et on doit, étant donné que c'était là depuis longtemps, on peut avoir le sens que ça va être toujours là, puis alors quoi faire?
Non, c'est inacceptable. C'est banaliser tout ça, finalement.
Oui, il ne faut pas le banaliser. Il y a des solutions. Et ça relève aux organismes tels que la Mission Oldbury et autres de travailler autrement. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous m'avez cité, on fait de bonnes choses. Depuis 125 ans, la mission existe.
Oui, 1889, oui. Donc vous offrez des repas, des gîtes de nuit, des résidences transitionnelles, des vêtements, et il y a 5 endroits, hein, c'est pas juste un endroit. Puis ce qui est très peu connu, j'aimerais qu'on le dise, c'est qu'il y a aussi les femmes.
Oui.
Parce que ça, on le dit peu souvent, ça.
Oui, la mission Oldbury est le ressource le plus important pour hommes au Québec, mais pour femmes au Canada. Et vous avez amplement raison, c'est peu connu le niveau d'effort qu'on consacre à résoudre la problématique de l'itinérance du côté féminine.
Chaque année, il y a plus de 600 personnes qui sortent de la rue et qui se retrouvent donc sur le chemin de l'autonomie grâce à votre organisme.
Oui.
Les gens s'en sortent.
Oui, ils s'en sortent. Alors, ça veut dire, on peut l'interpréter de cette façon. Dans un premier temps, c'est beaucoup de gens. On est fiers. C'est pas suffisant encore, mais on est content des résultats de nos programmes. Deuxièmement, on peut laisser de côté les solutions disant que il y a bien des gens qui veulent rester à la rue, mais c'est pas vrai. C'est une fausse impression que portent plusieurs personnes. Les gens n'ont pas choisi la rue. Ils ont trouvé une façon de le normaliser, mais c'est pas la même chose que de vouloir rester. Alors, ils sont soif pour des solutions. On leur offre et au-delà de 600 personnes à chaque année sortent de chez nous grâce à nos programmes vers la réinsertion dans la société.
Alors,
uniquement un 20 % retourne à nos portes. C'est un taux de réussite qui dépasse nos propres attentes.
Alors, au niveau des chiffres, justement, on en parle. Il y a en ce moment, et d'ailleurs, vous avez fait partie de ces discussions, et moi, j'ai été étonnée, on ne savait pas le nombre de sans-abri, puis il n'y a jamais eu de comptage de fait à ce niveau-là. Ça ne s'est jamais fait.
Imaginez de planifier un projet pour adresser ou pour confronter un problème dont on ne sait pas l'ampleur ou la taille. C'est de bricoler quelque chose sans avoir un sens de l'ampleur. Et alors, je le trouve inconcevable et je le trouve essentiel qu'on a une meilleure compréhension de l'ampleur du problématique de l'itinérance.
Parce que pour l'instant, on vit avec des faux chiffres. Il y en a qui nous disent qu'il y en a 20 000, 30 000 sans-abri. Là, on est vraiment dans le néant, là.
Oui, c'est ça. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a raison, mais c'est pas tous les gens qui ont raison parce qu'il y a plein de chiffres. Il faut savoir l'ampleur pour déterminer, dans un premier temps, avant qu'on demande pour d'autres sources financières. J'imagine que nous aurions besoin, mais avant qu'on fasse cette demande, laissons-nous savoir combien de gens, c'est quoi l'ampleur de l'itinérance. Et étant donné l'ampleur, l'utilisation des ressources actuelles, est-ce qu'ils sont bien utilisés pour la meilleure efficacité et le meilleur impact chez cette population, encore pour la vaincre, pas pour le mieux gérer? Et ensuite, lorsqu'on arrive à des conclusions, on saura davantage. Là, on aura besoin de plus d'argent pour investir dans ci ou dans ça, toujours dans un contexte de mieux comprendre l'ampleur et d'une meilleure efficacité d'utilisation des ressources actuelles.
Dans ce comptage, qui est une très bonne nouvelle, parce que vous l'avez dit, il faut vraiment savoir le nombre de gens qui sont dans la rue, mais il y a quelque chose de beau qui s'est passé, qui s'est produit dès l'annonce de ça. Il y a eu énormément de bénévoles qui ont dit, on veut s'offrir. Ça, c'est merveilleux, ça.
Ouais, c'était...
Ça, c'est... Dans... c'est inespéré, non?
Wow, c'était fabuleux. Et ça part tellement fort de l'intérêt des citoyens de Montréal d'embarquer lorsqu'on leur demande. On a ouvert un site web pour accueillir les candidats pour participer comme bénévoles dans ce recensement. Et nous étions à la recherche d'autour de 800 personnes. Et à l'intérieur de 3-4 jours, il y avait 1000 personnes, au-delà de 1000 personnes qui sont inscrites. On a dû arrêter la réception des candidatures. On ne s'attendait pas à ça.
Mais
et
c'est ça.
Comme j'ai dit, ça parle fort.
Ça parle fort. Et au niveau des femmes, ça a l'air que c'est plus difficile parce qu'on sait très bien que malheureusement, les femmes, elles, c'est plus de la violence, plus sexualité, c'est-à-dire viol. Mm-hmm. Et donc, si elles peuvent se sortir de la rue la nuit, tant mieux.
Oui.
Alors là, ça va être un peu plus difficile de savoir le chiffre exact.
Oui, nous ne saurons pas le chiffre exact pour plusieurs raisons. Ça c'en est une. Il y a, mm-hmm. C'est une population mobile et qui ont des pratiques qui font en sorte qu'ils ne seront pas peut-être en évidence lors de soirées de dénombrement. Aussi, 80 % de la population itinérante, ils le sont de façon temporaire, de courte durée,
ouais.
Peu besoin de beaucoup de support, puis ils s'en sortent mm-hmm. quasi eux-mêmes. Alors, durant une année, il y a beaucoup de roulements, beaucoup de personnes en nombre qui se trouvent à la rue, mais pas un grand nombre qui se trouvent dans la chronicité ou dans l'épisodisme qui rentre mm-hmm. et sort de la rue. Pour ces raisons-là, nous ne devons pas s'attendre qu'on va arriver à un chiffre fixe qui dit qu'il y a tant de personnes et c'est ce montant. On doit plutôt s'attendre que les résultats vont nous donner une ordre de grandeur de cette population. Partons de 30 000, partons de 5 000, partons de 10 000. On aura cet ordre de grandeur. Et ouais. Sachant cela, là, on puisse être en mesure de planifier. Parce que de planifier pour gérer une population de 30 000 ou de 5 000, c'est vachement différent.
Complètement. Alors, au niveau des politiques, bon, il y a eu une politique de lutte contre l'itinérance. Donc, est-ce que vous trouvez qu'on avance ou on recule?
Non, on avance. C'est clair qu'on avance. La ministre Yvon de l'époque a ciblé sur la réalisation de ce politique. C'était demandé par les organismes communautaires de longue date. Et elle a accepté le mandat et elle a livré. Pas uniquement qu'elle a livré, elle a livré dans un contexte où, suite à une grande consultation où les organismes communautaires ont senti vraiment entendu le résultat dans la politique, c'était clair que on était à l'écoute, puis les priorités qui ont été annoncées se retrouvaient dans cette politique. Alors, nous avons, nous, les organismes communautaires qui œuvrent devant la population itinérante, ont beaucoup de confiance dans la qualité de cette politique. Évidemment, une politique, lorsque c'est établi et c'est écrit dans un document, ça peut rester sur une tablette quelque part.
Mmh.
On ne veut pas que ça se fasse, alors ça prend des actions. Nous avons un plan d'action qui a été dévoilé récemment en décembre par le nouveau gouvernement, ministre Charlebois, qui contient, il y a clairement un lien entre le plan d'action et la politique. Ça, c'est de bonnes nouvelles.
Bon.
Le problème que je trouve, c'est que les plans d'action des gouvernements, peu importe que ce soit dans le domaine de l'itinérance ou autre, sont établis en vertu des ressources qui sont disponibles et pas en vertu de la demande qui
est là. Ouais.
Alors, je crois que le plan d'action est important. C'est pas rien, mais c'est pas ce plan d'action qui va nous amener à vaincre l'itinérance.
Vous aviez une promesse, justement, avec cette politique de 6 millions. Est-ce que vous l'avez eue pour... dans ce plan d'action-là, on parlait de 6 millions de dollars.
Oui, il y a certains éléments. Je ne connais pas autant les chiffres pour pouvoir dire oui, ça a été fait ou non. Il y a toutes sortes de chiffres qui ont été annoncés. Ce n'est pas le 6 millions. Je crois que ça tourne autour de 3 millions qui a été annoncé, si je n'ai pas tort. C'est plutôt qu'il y avait aussi dans l'annonce, pas uniquement une promesse d'un certain niveau de financement, il y avait une promesse de certaines programmes qui vont être valorisés. Alors, quels sont les programmes? Un, c'était notre projet PRISME en santé mentale, en partenariat
oui,
avec le CHUM.
Oui, tout à fait. Vous avez... Oui, ça, ça a très bien fonctionné. Et... Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a à peu près 30% de la population itinérante à Montréal qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est oui. très, très important de cibler. Oui,
oui c'est une partie de la population très importante à oui. cibler oui. parce qu'ils souffrent des troubles de santé mentale et c'est la raison principale pour laquelle ils trouvent à la rue, ils sont
tout
malades.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on laisse les malades à la rue? Selon moi, c'est inconcevable. Alors, ce projet était une réussite au-delà de nos attentes encore. Les réussites que je peux décrire long et large.
On va revenir justement de ce projet-là parce que c'est très important. On fait une pause musicale, les colocs, passe-moi la poque et on revient justement à parler de ce projet.
Aujourd'hui, la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël, ça c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage sur les plus démunis. Voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis. J'habite pas dans les taudis, m'appelle pas, je viens tout seul. On te met des points, c'est IA, ben mon point, sa gueule. Golden Johnny travaille pour les Yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Y'a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? J'ai dit, fais passe-moi à Puck, puis je vais en compter des buts. Yeah! D'intérêt public, de savoir si je me pique. Tu vois-tu de la robine, tu fouilles-tu d'un poubelle? Parle-moi les détails de ta vie sexuelle. Bonnette, branlette, canette, ginette. Quand t'es mangé, je m'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le téléthon des alcooliques. Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Que tu me penses moi à part que je vais compter tes buts. Yeah! Pas que je vais en compter des buts. Yeah!
Mathieu Pierce, président et chef de la direction de la mission Albury, est avec nous. On parlait justement du projet PRISME qui est vraiment évolué et qui reconduit, vous me dites.
Oui, ça a été reconduit dans le plan d'action interministériel qui a été annoncé en décembre. Le projet PRISME, c'est le projet réaffiliation en itinérance et santé mentale. Alors, c'est un projet qui mise particulièrement et explicitement sur la population itinérante qui souffre des problèmes de santé mentale, comme vous dites, et c'est bien le cas, autour de 30 à 35 % en souffrent. Mm-hmm. Alors, ce projet est un projet en partenariat de la mission Oldbury et le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, où le département de psychiatrie embarque et envoie des psychiatres, des travailleurs sociaux, des infirmières en psychiatrie chez nous, dans un milieu mieux connu par cette population que dans un contexte hospitalier institutionnel.
Ce qui doit être beaucoup mieux, d'ailleurs.
Ah oui, c'est beaucoup mieux, parce que sans le projet PRISME, la réalité, c'est que quelqu'un à la rue qui souffre d'un problème de santé mentale se rendre en crise normalement à l'hôpital. Ils sont rapidement rencontrés, rapidement...
Ressortis dans la rue.
Oui, pour ressortir. Le psychiatre le rencontre, fait une diagnose rapido, donne une ordonnance, des pilules, et leur conseille de revenir, disons, le mercredi prochain à 15h30. Alors, la personne prend ses pilules, elle arrive devant les portes de la mission, ils vendent ses pilules pour avoir de l'argent, et ils ne retournent pas la semaine après. Et c'est un gaspillage total des ressources hospitalières. Alors, on s'est dit, le problème, c'est pas que le psychiatre ne sait pas quoi faire. C'est loin de là. C'est plutôt que le contexte n'est pas adapté pour la réalité de la population itinérante. Mm-hmm. Alors, on est mieux que les psychiatres sortent de leur mur pour venir chez nous, que ce soit le contraire, parce qu'on a, le contraire ne fonctionne pas de tout.
Non,
alors, on voit maintenant, depuis un an et demi, des miracles en termes des résultats. Une personne qui était à l'intérieur de notre refuge, alors dans un gros dortoir de lits superposés, il était là pendant 10 ans de temps. Un homme de 72 ans, je crois. Il tournait en rond dans le stationnement, parlant à lui-même ou au moins à quelqu'un que je ne voyais pas.
Et
je lui ai appelé mon gardien du stationnement. Et il a été rencontré par les psychiatres dans le contexte du projet PRISME. Uh-huh. Rappelons, 10 ans de temps dans un refuge. Après une semaine et demie de traitement, de stabilisation, il était prêt à partir. Il n'est plus là. Imaginons qu'on aurait pu lui offrir ça il y a 10 ans.
Ça veut dire qu'il a passé 10 ans alors que vous aviez la solution comme ça.
Dans une semaine et demie.
Mais c'est extraordinaire, ça.
Alors, il est parti, il est dans un
contexte... Vous lui avez donné une nouvelle vie, quoi.
Ben oui.
Ouais, permis
oui, mais...
de l'estime de lui.
On n'aurait pas dû attendre aussi longtemps.
Mais non, tout à fait.
Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas uniquement faire de bonnes choses, il faut faire des choses qui transforment.
Tout à fait. Alors, vous dites aussi, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre des malheurs, mais on peut l'empêcher de rester dans la rue pendant des mois. Ou même des années.
Oui. Nos services et les services offerts à Montréal ont permis la création de la chronicité en itinérance.
Oui.
Ils ne sont pas à la hauteur que ça doit l'être pour aider les gens de rapidement sortir. Alors, nous avons transformé nos services au sein de la mission qui accélère maintenant et qui résiste la tendance vers la chronicité chez beaucoup de gens.
Oui, parce que c'est ça qu'il faut, il faut travailler là-dessus.
Alors, les gens maintenant qui arrivent à nos portes pour la toute première fois, qui ne sont pas dans notre base de données, sont insérés dans un programme résidentiel d'évaluation et référencement pendant une période de 3, maximum 4 semaines. Et c'est obligatoire. La personne ne puisse pas dire, mais non, moi, je préfère le dortoir. Non, c'est l'accueil résidentiel.
Donc, elle est prise en charge.
Prise en charge dès le départ. Et 80% sortent dans cette période de 3 semaines à 1 mois. Mm. Et les autres sont obligatoirement poursuivis dans d'autres programmes d'accompagnement vers la réinsertion. Alors, l'entreposage humain, que je dis, qui est la vie en refuge...
C'est le dernier recours. C'est vous voulez éliminer ça, et puis on comprend complètement et on approuve votre philosophie.
Merci.
Écoutez, au niveau... Je vais la poser la question, parce qu'il est arrivé beaucoup de choses lors des dernières années. L'itinérance et les policiers, il semble qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là.
L'évidence est là, n'est-ce pas? Dans les cas qu'on a pu noter, les personnes en itinérance qui ont perdu la vie à cause de la façon que la police et cette population se confrontent l'un l'autre. Je comprends très bien le rôle de la police, c'est d'assurer le plus possible la paix Et que quand il y a quelqu'un qui se désorganise et qui est à un comportement de violence, il faut trouver des façons de le contrôler pour pas qu'il fasse du mal à d'autres mondes. Je comprends très bien
oui,
ça.
Oui.
Mais étant donné que c'est une crise dont la personne vit oui. et pas une décision de faire quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait d'autres façons d'interagir avec la personne. Juste le fait que la police, avec un uniforme, arrive sur place, crée, augmente la tension.
Mais tout à fait. Même un citoyen normal, un
oui.
policier avec l'uniforme, ça nous stresse déjà. Là.
Parfois,
ouais.
oui. Ouais,
parfois,
oui.
Ouais.
Alors, ils ont créé l'équipe Emery, qui est cette équipe de policiers et travailleurs sociaux qui travaillent ensemble pour rencontrer la population à la rue. Et ça a porté fruit. C'est, mm-hmm. Ça existe depuis 3-4 ans, je crois. Et les gens qui travaillent dans la SPVM, la police, sont bien formés. Ils connaissent la population, puis ça marche très bien. Le problème, c'est qu'une crise, on ne sait pas où ça aura ouais. lieu et l'équipe ne pourra pas être un peu partout.
Alors, il faut plusieurs policiers formés dans ça, parce que je pense qu'ils sont très peu...
On compte formés sur dans les façons de diminuer les tensions.
De diminuer les tensions,
oui.
oui, avec ses clientèles. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a une campagne majeure de financement 2014-2020. Il y a un objectif de 55,5 millions. Plusieurs services, c'est intéressant. On pourra aller, mesdames, messieurs, vous pourrez aller sur Internet, mais il y a 6 façons de donner. Service d'urgence, vous donnez votre argent ou pour les services d'urgence ou le programme de transition. 3, services adaptés en santé physique et mentale. 4, logement stable et abordable. 5, travail de soutien communautaire. Et aussi 6, acquisition des connaissances et tout ça. Donc, vous avez plusieurs façons de donner. Selon vous avez envie de donner pour un logement et tout ça, c'est une nouvelle façon
oui.
de faire ça.
C'est une campagne de financement qui nous aidera à mettre en place un continuum de services qui va contrer la problématique de l'itinérance chronique, qui va débloquer le système qui est bloqué en ce moment et qui va créer un continuum mm-hmm. où les personnes ne vont pas rester à la rue pour longtemps, ils vont progresser rapidement, oui. le plus rapidement possible vers la réinsertion. C'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin de cet argent. On n'a pas l'intention d'avoir une autre campagne de 55 millions en 5 ans. On croit pouvoir mettre les choses en place qui vont finalement nous aider à diminuer notre budget, diminuer mm-hmm. la demande, diminuer mm-hmm. le nombre de gens qui se trouvent à la rue. Et alors, c'est ça le plan. On fête notre 125e anniversaire. On ne veut pas fêter notre 150e.
Non. Non. Je sais, je vous le dis souvent, vous, votre souhait, c'est que ça disparaisse.
Et voilà.
Pour la société. Alors, on fait une petite pause, et, histoire de revenir avec le jeu questionnaire, les questions rafales. Mathieu Pierce, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Il y a des personnes... il n'y a pas quelqu'un que je puisse nommer que vous connaissez, mais c'est les gens qui sont à la rue, qui ont sorti de la rue avec beaucoup de conviction de leur part. Ils m'inspirent à chaque jour.
Vos mentors?
Mes mentors, c'est encore les gens avec qui je travaillais tout au long, que j'ai appris quand je voyageais, puis j'ai vu des gens qui ont été en extrême difficulté, qui n'ont quand même pas laissé de côté, ils ont surmonté leurs problèmes.
Les livres que vous nous recommandez?
Mais je recommande, je lis beaucoup les classiques, Balzac, Turgenev, Dostoevsky, parce que ça m'amène à une autre époque et il y a une façon de s'exprimer de cette époque qui est perdue aujourd'hui et que j'aime beaucoup.
Vos artistes préférés?
J'ai plein d'artistes, toutes sortes de musique, Leonard Cohen, Weather Report en jazz, j'aime le musique même chill, Tape 5, ces artistes-là.
Et vos villes préférées?
Ah, mais Montréal, Paris, Istanbul, Et Bangkok, Le Caire, ce sont des endroits qui m'ont beaucoup impressionné.
Merci, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Très agréable. Puis on va tout mettre sur notre site internet pour que les gens puissent donner à la mission Albury. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute de ces gens qui font la différence. Merci à mon équipe, à la réalisation de l'émission Jean-Sébastien La Liberté, à la recherche Christiane Campagna et aux médias sociaux Kevin Breton. À la semaine prochaine. Bye bye.